Réplique, que reste-t-il aujourd'hui de l'idée de progrès avec Gérald Bronner et Robert Heidegger. À la suite de l'échange d'il y a 15 jours, sur le sens de la République, M. Smaïn Lahacher a demandé et obtenu le droit de réponse suivant. Au cours de l'émission réplique du 10 octobre 2015, M. Georges Bensoussan m'a attribué la phrase suivante. C'est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir que dans les familles arabes en France, et tout le monde le sait, mais personne ne le veut dire, l'antisémitisme on le tête avec le lait de sa mère. Cette prétendue citation n'est que la déformation outrancière de mes propos, mais aussi de ma pensée. Je n'ai évidemment jamais suggéré ni supposé que l'antisémitisme de certaines familles arabes s'expliquait par une cause biologique. Une telle thèse, qui suggère l'idée d'un racisme naturel, est précisément aux antipodes de mes travaux de sociologue. Cette théorie est totalement éloignée de ce que je suis et de ma pensée. Voilà. Je peux maintenant aborder la question brûlante du progrès. À mes deux invités, le philosophe Robert Heidegger, qui publie « Progrès, point final », et le sociologue Gérald Bronner, auteur de « La planète des hommes, réenchanter le risque », je voudrais d'abord rappeler la distinction qu'opère Francis Bacon dans son « Novum Organum », qui est un peu comme l'évangile des temps modernes, entre trois degrés d'ambition. Le premier comprend ces hommes qui sont avides d'accroître leur propre puissance au sein de leur pays. C'est le genre le plus commun et le plus vil. Le second comprend ceux qui s'efforcent d'accroître la puissance et l'empire de leur patrie au sein du genre humain. Ce genre montre plus de dignité, mais non moins d'avidité. Mais qu'un homme travaille à accroître la puissance et l'empire du genre humain lui-même sur l'univers, cette ambition-là, sans doute, s'il faut encore la nommer ainsi, est plus sage et plus noble que les autres. Or, l'empire sur les choses repose tout entier sur les arts et les sciences. Pourquoi cette ambition est-elle plus noble que les autres? Parce que, comme l'écrit Léo Strauss, elle met la science, jadis purement contemplative, au service de l'amélioration de la condition de l'homme. Désormais active et charitable, la science doit rendre possible le progrès vers une prospérité, une liberté et une justice toujours plus grande. Cette ambition a façonné le monde dans lequel nous vivons. Ce progrès, nous en sommes les héritiers. Mais voici ma question. Pouvons-nous continuer à penser l'histoire humaine comme la mise en place progressive du règne de l'homme, ou l'heure est-elle venue d'un changement de paradigme, Robert Heidegger?
D'abord, je dirais que nous sommes les survivants du progrès, ou de l'idée de progrès. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Alors qu'appeler progrès, je crois que le plus vrai, c'est de le dire de la manière suivante. Nous appellerons progrès une façon de croire que qu'il en va de l'histoire, parce que l'histoire, c'est sans doute ce qui manque dans Bacon, qu'il en va de l'histoire comme de la nature chez Descartes et aussi chez Bacon, une entité dont nous pouvons devenir comme les maîtres et les possesseurs. Au fond, l'idée, c'est cette foi-là, la foi que l'on peut agir avec l'histoire comme avec la nature. Donc, c'est faire glisser le progrès de la nature vers l'histoire. Or, notre époque, peut-on encore voir cette foi-là à notre époque, où il semblerait plutôt, j'ai dit survivant de l'idée de progrès, où il semblerait plutôt que nous sommes dans un temps de décomposition de cette foi dans le progrès, et j'emploie décomposition au fond comme Marx et Engels dans l'idéologie allemande parlent de l'idéalisme de Feuerbach en termes de décomposition de l'hégélianisme. Voilà. Et il y a un rapport entre, finalement, entre Hegel, ce que représente Hegel, et le progrès comme foi, comme croyance, la marche des hommes, de l'histoire humaine vers une sorte d'accomplissement. Alors c'est cela qui se décompose aujourd'hui.
C'est-à-dire que la liberté qui s'étend peu à peu à tout le genre humain, la liberté d'un seul en Orient, la liberté de quelques-uns dans la Grèce antique, puis la liberté de tous, et en même temps, cette histoire permet d'assurer à l'humanité la maîtrise de la nature et de son propre destin. Donc, il y a dans l'idée de progrès la conjugaison de l'émancipation et de la domination.
Tout à fait. Et l'idée de progrès et Hegel, c'est d'une certaine façon une analogie qui tient tout à fait debout, de même que le concept de décomposition. Qu'est-ce que c'est que Hegel ? Qu'est-ce que c'est que le progrès ? À chaque fois, je vais employer le terme de Bossuet, à chaque fois une époque, au sens où Bossuet forge le concept d'époque dans son histoire universelle. Et entre les époques, il y a la décomposition.
Et nous sommes à ce moment-là, oui. Une époque se décompose, et voilà, c'est ce qui nous... Voilà pourquoi, dites-vous, nous sommes les survivants oui. du progrès. Robert oui. Decker, je vous interrogerai sur les symptômes, oui. aujourd'hui, de ce que vous appelez la décomposition contemporaine, mais je me tourne d'abord vers Gérald Bronner. Que répondez-vous à cette question ?
Avant d'évoquer éventuellement des points de désaccord, il y a quand même un certain nombre de points d'accord. Et je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai entendu de la part de M. Rodecker, c'est-à-dire que nous sommes effectivement face à une crise de l'idée de progrès, manifestement. Et je dirais même au-delà, pour aller aussi dans son sens, nous sommes véritablement un carrefour de l'histoire humaine, dont il ne faudrait pas sous-estimer l'importance. À présent, donc, l'idée, en effet, d'un progrès qui dessinerait un chemin linéaire et cumulatif, en quelque sorte, de notre avenir, est une idée qui est profondément en crise, et c'est pas forcément mal, parce que je crois que c'est une idée profondément idéologique. Ce qui ne veut pas dire, c'est la position que j'aurai dans cette heure de conversation, ce qui ne veut pas dire que l'idée de progrès doit être abandonné. Il ne faut pas confondre le progressisme et le progrès, de même que, par exemple, il ne faut pas confondre la notion d'égalité et l'égalitarisme et les excès d'égalitarisme. Alors, en tant que sociologue, la question que vous me posez m'intéresse beaucoup, puisqu'elle part d'abord sur un constat. En effet, je constate, nous ne sommes pas les seuls, Robert Decker et moi, à constater qu'il y a une crise de l'idée de progrès. On peut la révéler par bien des symptômes, nous en parlerons après. Mais dans le même temps, et ça constitue une situation énigmatique, si on prend quelques données, on va dire, qu'elle soit économique ou sociale ou technologique, mais restons sur les données ne serait-ce que économiques et sociales. Au niveau mondial, par exemple la pauvreté extrême, qui concernait 52% des individus de cette planète en 81, constitue aujourd'hui moins de 10%, c'est encore trop. Mais on peut parler objectivement d'un progrès. On pourrait dire la même chose pour la faim dans le monde. Pour le travail des enfants dans le monde, par exemple, savez-vous que 100 millions d'enfants en moins sont concernés par ce drame depuis le début des années 2000. L'espérance de vie, nous le savons tous, a prodigieusement augmenté. La mortalité infantile a prodigieusement réduit. La démocratie, on s'inquiète beaucoup à juste titre de l'état de notre monde. Mais la démocratie compte aujourd'hui 60% des états de cette planète et c'est aussi un grand progrès puisque depuis la chute du mur de Berlin, le nombre de dictatures et de despotismes des pays concernés par ce type de régime politique a largement diminué et même les guerres qui nous inquiètent tant à juste titre ont aussi diminué. C'est-à-dire qu'on comptait 50 à 60 conflits dans le monde en 90, il y en a moitié moins aujourd'hui. Donc, je ne dis pas que nous devons nous contenter de l'état du monde, sinon il s'agirait d'abandonner la politique, mais nous pouvons en tout cas, en tant que penseurs, qu'on soit sociologue ou philosophe, du reste, nous étonner de cette disjonction entre, d'une part, l'état de ce monde qui pourrait nous réconforter, et d'autre part, cette inquiétude qui s'est saisie de nous.
Alors, Robert Hellecker.
Je suis un peu triste d'être en accord avec ce
Monsieur
Bronner, ce qui est ennuyeux.
Non, mais rassurez-vous.
Un débat. Monsieur Bronner a parlé de la crise de l'idée de progrès. Il faut être juste et dire que nous ne sommes pas les premiers à en parler. Mon travail trouve sa source dans les écrits de Pierre-André Taguieff sur le progrès, qui ont déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années. Puis il faut lui rendre hommage et dire... nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Il y a du travail en amont. Donc, il y a le travail de Taguieff. Alors, ce qui vient d'être dit, l'accord, c'est qu'il y a les progrès et le progrès. Voilà, les progrès qui sont des améliorations des conditions de vie humaine et le progrès qui est une idéologie, une foi dans un sens de l'histoire et une foi dans l'idée que l'histoire possède un sens. Mais je voulais revenir juste sur un point, l'amélioration des conditions de vie des hommes n'est pas une modification de la condition humaine. La condition humaine, c'est-à-dire être tenaillé par le désir, la faim et la mort, est toujours présente. L'illusion, ça a été de penser que les progrès modifieraient la condition humaine métaphysique.
Est-ce que c'est seulement une illusion, Robert Dedeker, parce que nous sommes à l'ère des manipulations génétiques, le clonage est une sorte d'horizon possible, donc l'homme agit de plus en plus sur sa condition, mais surtout... Moi, je voudrais vous répondre, Gérald Bronner, en citant un philosophe que je crois vous n'aimez pas, si je vous ai bien lu, Hans Jonas, le principe responsabilité. Et il dit que la menace de catastrophe contenue dans l'idéal baconien, de Bacon donc, cet idéal de la domination sur la nature par la technique scientifique, tient à la taille de son succès. Premier succès, le succès économique dont vous avez parlé. Car cela comporte des risques de surcharge des réserves naturelles finies. Nous savons aujourd'hui que le monde est fini. Mais il dit, deuxième succès, le succès biologique, qui conduit à une augmentation spectaculaire de la population humaine sur la Terre. Et il dit ceci, cela accélère le taux de la première évolution, cela multiplie en effet, mais encore... Cela lui ôte toute possibilité de se donner l'ordre d'arrêter, justement. Parce qu'une population statique pourrait dire, parvenue à un certain point, assez, mais une population croissante est obligée de dire davantage. Et dès lors, dit Hans Jonas, on assiste à un pillage toujours plus effronté de la planète, jusqu'au moment où celle-ci prononcera son verdict et se dérobera à la surexploitation. Combien de catastrophes accompagneront une telle situation de sauf qui peut ? Cela défie toute imagination. Alors, dans un numéro du Point auquel vous avez participé, Thomas Mahler parle de pitié décliniste. C'est un terme gracieux. Mais parmi les pitié déclinistes, donc, il y a Hans Jonas, mais il y a aussi Lévi-Strauss. La prolifération insensée de l'espèce humaine renverse l'élan qui, s'ils étaient plus rares, nous porterait vers les êtres qui la composent. Physiquement et moralement, nous sommes désormais trop serrés les uns contre les autres. Voilà quand même une réalité qui nous amène à remettre en cause la notion de progrès, parce que soudain, nous qui étions prométhéens, nous sommes obligés de penser en termes de limites, et nous sommes obligés de nous dire que peut-être ces limites, nous n'arriverons jamais à les fixer.
Et nous avons raison, en partie, il faut rendre grâce en quelque sorte à Hans Jonas d'avoir marqué un temps important dans la philosophie de notre devenir. Il a insisté, il n'est pas le seul, mais il est probablement la figure qui a insisté le plus clairement sur la transformation de cette idée linéaire de notre temps en une forme d'arborescence. En fait, il nous a fait prendre conscience que le développement technologique et scientifique était une arborescence et que certaines branches de cet arbre pouvaient en effet nous conduire à la catastrophe. Entendu en ce sens, il a contribué à nous réveiller d'un sommeil dogmatique dans lequel nous avait plongé le progressisme. Mais j'affirme qu'il contribue à nous plonger dans un autre sommeil idéologique que l'on peut appeler, disons, je l'appelle avec Étienne Géin, le précautionnisme, c'est-à-dire une idéologie de la précaution face à cette arborescence. Ce que nous suggère ce genre de penseur, c'est que la norme de décision, notamment en matière politique, c'est d'adorer la précaution. On peut aussi appeler ça, et on y reviendra peut-être, l'anthropophobie, c'est-à-dire la détestation dans le fond de l'action de l'homme, sa détestation et sa peur, en craignant que l'action d'un homme provoque toujours le pire. Je dis qu'il y a de la sagesse dans cette mise en garde, et je dis aussi qu'il y a de la déraison. Ce que je reproche en partie aux Jonasiens, c'est de ne pas concevoir ce point aveugle. Pour quelle raison ? C'est que certes, certaines de ces branches peuvent nous conduire à la catastrophe, mais certaines autres, et je crois que les données que je vous ai indiquées en introduction de cette émission le montrent de façon éclatante, certaines autres vont sauver des vies et par millions. Où seront-ils les victimes invisibles de ceux qui suivront les préconisations de Jonas? Parce qu'on ne saura jamais quelle vie aurait pu être sauvée si on n'avait pas pris cette disposition technologique. En d'autres termes, emprisonner le présent à l'aveugle par crainte des conséquences possibles du futur, c'est aussi éventuellement nous priver du meilleur et donc dispenser nos enfants, les générations futures, d'avoir des moyens de répondre à certains dangers qui ne manqueront pas de survenir dans notre destin.
Robert Ellecker.
Je reste partagé. La catastrophe dont il est question, qui est déjà là partiellement, je laisse de côté la nature. Il y a une catastrophe, me semble-t-il, anthropologique. Voilà. Une catastrophe anthropologique au sens d'un rapport des hommes au temps en particulier et au cosmos complètement désenchanté aujourd'hui. Voilà. Et c'est lié au progrès technologique je vais m'expliquer, et à la modification des conditions de vie. Voilà. Autant, premièrement, cette modification des conditions de vie dissocie les êtres humains de la profondeur du passé et également les empêche d'envisager l'avenir. Autrement dit, les bloque dans le présent. Donc, une catastrophe anthropologique, c'est la détemporalisation de l'âme humaine. Bon. Et alors, par rapport au cosmos également, je crois que la modification des conditions de vie déconnecte complètement les êtres humains d'un rapport, non pas à la nature, mais à l'univers dans son ensemble, qui avait quelque chose de merveilleux. Donc là, nous avons effectivement un désenchantement de l'univers qui est lié à ces progrès dont on parle. Alors, ces progrès, bien entendu, nous pouvons dire qu'ils ont, mais c'est une évaluation utilitariste et sans doute basse. Nous pouvons dire qu'ils ont quelque chose de positif, oui, vivre plus longtemps, probablement c'était un bel âge pour mourir à 60 ans, à 1930, aujourd'hui on meurt à 60 ans, on dit on meurt jeune. On peut en effet dire que c'est positif, mais cette évaluation est simplement une évaluation utilitariste. Je crois qu'il y a derrière une catastrophe. Mais alors, catastrophe signifie aussi, je me souviens de Platon, volte des temps et aube d'une nouvelle époque, d'un renouveau.
Charles Bonner.
Là encore, je vais partir d'un accord, mais pour arriver cette fois à un désaccord. Parce que c'est bien le plaisir du débat. Oui, évidemment, il y a une situation de désenchantement. Un de mes maîtres intellectuels, Max Weber, l'a très bien décrit, évidemment. Je n'en aurai pas la même lecture que vous et je n'aboutirai pas à la même conclusion pessimiste. Au contraire, d'une certaine façon, je m'en réjouis. Le rationaliste en moi s'en réjouit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que l'histoire que nous sommes en train de vivre est un morceau d'une très longue histoire qu'on pourrait résumer, excusez-moi, très très brièvement, à l'histoire finalement de l'évidement ontologique du monde. À l'origine de l'humanité, nous avions un rapport effectivement très fantasmé à notre univers, avec des êtres, des psychés un peu partout répartis dans les ruisseaux, les nuages, que sais-je. Et puis progressivement, ces êtres ont disparu. C'était très pratique, ces êtres, parce qu'ils nous permettaient de négocier avec eux. Je te fais tel sacrifice et tu m'accordes de pleuvoir, etc., etc. Bref, c'était des modèles de réduction d'incertitude. Puis les dieux se sont substitués à ces êtres. Ces dieux se sont trouvés de plus en plus lointains, jusqu'à aboutir à l'acmé dans le protestantisme de l'impossibilité même de dialoguer et d'obtenir éventuellement quelque chose de Dieu. Voilà. Un évidement ontologique. Puis c'est vrai, une idéologie s'est substituée à ce rapport au monde en cherchant à mécaniser notre rapport à la nature, en cherchant, puisque vous avez cité Descartes tout à l'heure, en effet, à s'en rendre maître et possesseur. C'était là une grande illusion, puisque précisément, notre volonté de mécaniser notre rapport au monde a été très déceptif, puisque nous avons vu que quelquefois, nous pouvons provoquer la catastrophe. Donc encore une fois, voilà où nous sommes face à une arborescence. Que doit faire l'humanité face à cette arborescence? C'est pourquoi le sous-titre de mon livre est « Réenchanter le risque ». Je pense que c'est une nécessité morale de réenchanter le risque. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons peut-être la chance, pour une fois dans notre destin, d'aboutir à une forme de maturité intellectuelle. C'est-à-dire de ne pas nous en remettre à la soumission qu'a caractérisé la première âge de notre destinée, et non plus à cette idiote domination qui était le prométhéisme idéologique. Mais pourquoi s'abandonner avec délices à la précaution. Pourquoi ne pas tenir compte, en effet, de la possibilité des risques de notre action, en assumant pleinement notre humanité, c'est-à-dire le destin de l'humanité, c'est aussi de faire des paris.
Et quand même, Gérald Brunner, alors vous dites, ce que vous dites m'évoque le livre d'Ulrich Beck, La société du risque, où il montre que les mots, les menaces et les risques, aujourd'hui, ne viennent pas de l'extérieur de la société, ils sont engendrés, manufacturés par cette société elle-même. Et qu'il s'agisse des OGM, de la vache folle, du sang contaminé, ou bien de l'extinction des abeilles par les pesticides. Et évidemment, la liste d'exemples que je vous donne ici n'est pas close. Qu'est-ce que ça veut dire de réenchanter ces risques-là ? Ces risques sont terribles. Ce qu'on aimerait, justement, c'est d'être assez fort pour les conjurer. Et il me semble que c'est la difficulté dans laquelle nous sommes. Vous vous en prenez à la peur assez fortement. Enfin, d'abord, il faut dire que la peur est fondatrice de la société bourgeoise. C'est la peur de la mère violente, dit Hobbes, qui assure la paix entre les hommes. Hein, c'est ce qui permet de sortir de la guerre de tous contre tous de l'état de nature et qui renverse d'ailleurs la morale. Hein, la morale, on passe de la morale du droit, du devoir à la morale du droit. Le premier article n'est plus une obligation mais une revendication. Le droit inaliénable de chacun à sa vie. Donc nous sommes des bourgeois d'une certaine manière et nous sommes redevables à la société bourgeoise d'avoir précisément récusé la morale héroïque qui faisait de l'acceptation du risque la valeur suprême. Mais maintenant, on voit aussi naître une autre peur, c'est-à-dire la peur pour le donné, la peur pour le donné qui devient de plus en plus manipulable, et aussi, en retour, peut-être encore la peur pour nous, parce que nous ne savons pas ce que fait ce que nous faisons, comme le dit Valéry. Donc voilà, et dans ce contexte-là, n'est-il pas légitime de combattre le risque? Il n'y a-t-il pas, si vous voulez, un paradoxe assez étrange à vouloir le réenchanter?
Puis-je me permettre une incise?
Oui, bien sûr, Robert Ridiger.
Au-delà du fondement de la société bourgeoise, je crois que la peur est fondatrice d'humanité. Voilà. Peur de la mort, peur de la nuit, aux origines de l'humanité, donc fondatrice, mais également fondatrice d'humanité à chaque instant de nos vies. Sans la peur, il n'y a pas l'amour. La peur est essentielle à la démarche amoureuse. Donc, ne calomnions pas trop la peur, si vous voulez.
Mais loin de moi, si vous voulez, l'idée de vouloir éradiquer la peur. Sans la peur, l'humanité aurait tout simplement disparu, probablement. Mais mettre en examen les peurs irrationnelles et s'abandonner à la témérité imbécile sont deux opérations totalement distinctes. Pourquoi ne pas utiliser, ça devrait parler aux philosophes que vous êtes, tout simplement la raison pour évaluer ces problèmes? Vous avez cité pêle-mêle toute une série d'innovations technologiques en les mettant dans le grand sac des risques insensés que l'humanité prendrait. Mais d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord sur toutes les mentions que vous avez faites. Par exemple, sur les OGM, encore faudrait-il prouver qu'il s'agit bien d'un danger, en tout cas pas pour la santé humaine. Vous savez qu'il y a des milliers de travaux sur cette question qui n'ont jamais démontré le caractère de non-innocuité des OGM mis sur le marché. Donc, il faut viser en tant que penseur méthodique à avoir un point de vue, je dirais, calme sur le monde et méthodique, encore une fois. Ce que je crains, tout simplement, c'est en effet, certains des dangers qui pourraient nous menacer peuvent venir de notre main. Et je ne suis pas pour la dérégulation totale de l'innovation technologique, loin s'en faut. Nous avons toute une série, encore une fois, d'institutions qui veillent aux excès éventuellement de propositions dans ce domaine. Mais n'oubliez pas aussi, sans être catastrophiste moi-même, c'est pas mon genre, qu'un certain nombre d'autres dangers pourraient nous menacer. Par exemple, la percussion de notre planète par un objet géocroiseur est déjà survenue 4 fois dans l'histoire. Elle surviendra probablement une autre fois quand, j'en sais rien. Mais voilà un danger qui pourrait tout à fait nous éradiquer. Donc la question que je vous pose, c'est si un tel objet venait menacer notre planète, comment pouvoir y répondre, si ce n'est par une riposte technologique? Je ne dis pas que la technologie doit être conçue comme une anti-nature à proprement parler. Il n'y a pas de raison de détruire l'espace naturel dans lequel nous sommes. Il faut procéder avec prudence. Mais j'essaye d'attirer votre attention aujourd'hui sur le fait que nous sommes plongés dans une autre forme d'idéologie excessive excessif qui pourrait nous faire beaucoup, beaucoup de mal et qu'on peut appeler le précautionnisme.
Voilà, je crois que la raison est habitée, nécessairement habitée aussi par autre chose qu'elle-même. Voilà, qu'on ne peut pas être, on doit tenter d'être rationnel, probablement pas jusqu'au bout, quelque chose dont il faut se méfier également, et la peur... cette partie d'irrationnel qui habite la raison et qui la rend sans doute plus raisonnable. Dans ce cas-là, la peur est un excellent guide irrationnel pour la raison. C'est la première chose que je voulais vous répondre à ce sujet. Bon, d'autre part, l'idée d'enchantement et de réenchantement dont vous parlez, elle aussi, c'est... si je suis votre démarche, si je m'accorde avec votre démarche, je serai obligé de reconnaître que cet enchantement, ce réenchantement, c'est l'irrationnel qui habite la raison dont vous voulez être le défenseur et le prêcheur. Et votre programme est irréalisable sans cette part d'irrationnel habitant votre raison. Au cœur de notre raison, parce que c'est son âme, c'est l'âme de la raison et le guide de la raison. L'enchantement, il n'y a pas d'enchantement rationnel.
Je ne pense pas du tout que les hommes, ni moi qui vous parle, soyons toujours et que nous devions toujours être parfaitement rationnels, que les choses soient claires. J'en appelle simplement à la raison, parmi les philosophes, parmi les hommes de science, sur des sujets qui sont totalement déséquilibrés. Vous savez que notre cerveau est très mal équipé pour penser le risque. Par exemple, nous multiplions intuitivement des faibles probabilités par 10 ou 15. Nous n'arrivons pas à bien compenser les coûts et les bénéfices. Etc. Notre cerveau est assez mal équipé. Ce que je crains aujourd'hui, et ce que je constate, ce n'est même plus de la crainte, je pense que ce sont des faits aujourd'hui, c'est que la dérégulation du marché de l'information dans lequel nous vivons, qui a pour nom entre autres Internet, elle favorise toute forme de démagogie cognitive. On l'observe dans bien des domaines, bien entendu, mais on l'observe aussi dans le domaine de la perception des risques, c'est-à-dire une main tendue aux pentes les moins honorables de notre esprit. Et je crois qu'en effet, aucun homme de raison ne peut se réjouir de cela. Mais par ailleurs, vive la poésie et vive la folie dans nos vies amoureuses, etc. Ça, on est bien d'accord.
Je vous demanderai simplement, à l'un et à l'autre, si vous pensez, comme un certain nombre de philosophes, qu'il s'agit aujourd'hui de fixer des limites. Et je citerai une dernière fois Hans Jonas, dès lors en effet que l'avenir est plus menaçant que prometteur, la nouvelle obligation insiste sur une éthique de la conservation, de la préservation, de l'empêchement, et non sur une éthique du progrès et du perfectionnement. Et je citerai aussi un penseur auquel Redeker se réfère abondamment dans son livre, Karel Kosik, le grand philosophe du printemps de Prague, quand il dit effectivement qu'aujourd'hui, il s'agit moins tant de changer le monde que de sauver le monde. Et sauver le monde, c'est une énorme tâche parce que ça peut être sauver les paysages, sauver les livres, sauver la langue, sauver les vaches, les poules et les cochons en mettant fin à l'élevage en batterie et aux gigantesques fermes-usines. Bref, un peu sauver les meubles. Donc, est-ce que vous seriez d'accord avec cette nouvelle obligation, ou est-ce que vous continuez à penser que le progrès n'a pas encore épuisé ses charmes, Gérald Bronner?
En effet, je ne serais pas du tout d'accord avec ces obligations. Je suis d'accord avec l'obligation de normes, bien entendu. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne vais pas y revenir. Je pense en revanche que dans ces propositions, il y a quelque chose de profondément réactionnaire, mais dans le sens originel du terme. Un certain nombre de ces penseurs proposent par exemple d'interrompre la division intellectuelle du travail. Ils nous proposent de retourner à ce qui serait notre essence, cultiver un jardin, etc. Et cette interruption de la division intellectuelle du travail pourrait être la clé absolue de l'humanité, en particulier de la connaissance, qui est fondée sur la division intellectuelle, elle aussi, le progrès de la connaissance. Donc, il ne faut pas oublier que c'est...
Ce n'est pas les exemples que j'ai cités, là.
Non, certainement pas. Mais alors, pour revenir, par exemple, sur Hans Jonas, je me permettrai aussi de rappeler que ce qu'il avance comme norme de décision, c'est ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. Il s'agit de nous faire peur, encore une fois, pour rétroagir sur nos actions présentes. Andjonas a même, dans certains passages de ses textes, suggéré qu'on pourrait instaurer, je vous le rappelle, une tyrannie bienveillante.
Oui, c'est une page c'est vrai. De principe certains... responsabilité, parce qu'il avait le sentiment que la démocratie ne réussirait pas à fixer les limites dont nous avons besoin.
Quel était son sentiment, et c'est bien ce qui m'effraie, car c'est un sentiment qu'on retrouve chez beaucoup des penseurs cousins de Andjonas. Par exemple, quelqu'un comme James Lovelock a proposé de suspendre la démocratie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à mon avis, je n'accuse pas Andjonas d'être un tyran, mais je dis que dans cette idéologie, il y a une charge tyrannique dont nous n'avons pas encore totalement pris conscience.
Robert Redeker.
Voilà, je crois qu'il ne faut pas trop tirer. D'abord, il ne faut pas rassembler sous le terme d'idéologie tout ce qui vient d'être cité et qui vient d'être lu. Ce sont des choses assez différentes, et idéologie, c'est un terme qui met tout dans le même sac. Et vous paraissez finalement tirer cela vers l'anthroposophie, Rudolf Steiner, ou des choses comme ça, assez ridicules.
Pas du tout. Quoique certains de ces penseurs soient très proches de l'anthroposophie, je vous signale Pierre Rabhi, etc.
Qu'est-ce que c'est l'anthroposophie?
Je vous en prie, Yoré Becker.
C'est, comment appeler ça, en un seul mot, c'est un courant mystico-naturaliste, quelqu'un comme Steiner, qui paraît sérieux, mais c'est tout à fait farfelu. Or, c'est très à la mode dans certains milieux écologico-mystiques, aujourd'hui. Alors, il ne faut pas tirer Jonas et ce qu'il y a autour de Jonas vers ça. Mais je voulais retourner à votre idée de sauver, de salut. Un salut a été oublié, SOS, mais finalement, sauver nos âmes, on ne dit plus sauver nos âmes, SOS veut dire sauver nos corps, sauver les vies. Mais finalement, c'est l'âme humaine, probablement, qui est, c'est pour ça que je parlais de catastrophe anthropologique tout à l'heure, c'est l'âme humaine, probablement, qui est menacée, c'est elle qu'il s'agit de sauver, en même temps que nous voulons sauver un certain regard sur la terre, les vaches, les abeilles, la nuit.
Sauver
la nuit. La nuit dont il ne faut pas oublier, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle est fondatrice d'humanité. Devenir un être humain, c'est chercher à échapper à la nuit et à la peur de la nuit. Mais en même temps, il faut que la nuit complète, soit toujours présente. Alors, la nuit est-elle menacée par les... progrès, probablement.
En 1988, aux États-Unis, une association pour la protection du ciel nocturne, Dark Sky Association, et au début de l'année 2002, la République tchèque a voté une loi limitant les flots lumineux des systèmes d'éclairage extérieur.
C'est
pour
une
effectivement,
très bonne
pour
loi.
Sauver l'obscur. Oui, mais justement, vous dites sauver nos âmes, Robert Redeker. Peut-être aussi s'agit-il de sauver la liberté. Un mot sur l'heuristique de la peur. Parce que la peur nous découvre quelque chose que nous ne connaissions pas avant elle. Je parlais des manipulations génétiques. Que restera-t-il de la liberté humaine si on arrive à fabriquer des athlètes, par exemple, voilà. Ou bien le clonage, par exemple. Qu'est-ce que le clonage? C'est la duplication parfaite d'un individu ayant déjà existé. Donc des êtres grandiront à ce moment-là en sachant d'avance qui ils sont, qui ils seront. Et pour peu qu'on se mette à la place du cloné, cette possibilité de porter atteinte à la faculté de chaque être humain de trouver sa propre voie et d'être une surprise pour lui-même est source d'effroi. Donc, et l'effroi, en montrant ce qu'une telle indétermination a de précaire, découvre aussi ce qu'elle a de précieux. La voilà l'heuristique de la peur. Pourquoi interdirions-nous le clonage? Sinon précisément pour préserver la liberté humaine, et celle-ci, avec les manipulations génétiques, est aujourd'hui carrément menacée.
Mais pourquoi, à votre avis, existe-t-il des comités d'éthique pour réfléchir, entre autres, sur ces questions? Et j'approuve l'existence de ces comités d'éthique, bien entendu, mais d'un autre côté, tout ce que vous venez de dire a été dit à propos des cellules souches. Et on a eu en France un retard terrible sur ces questions, sachant que le progrès sur les cellules souches va probablement sauver des vies innombrables, et en particulier en matière de maladies dégénératives. Donc, je me méfie beaucoup de cette rhétorique-là. Je lui accorde des raisons dans un certain cas, à condition qu'elle soit circonvenue. quelque sorte. Mais son caractère idéologique, et là je maintiendrai très fermement, en fait il y a une grande cohérence hein, parmi tous ces auteurs, mais il y a un air de famille, pour le dire comme Wittgenstein. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'en effet ils ont un plus petit dénominateur commun et qu'on puisse exactement l'identifier. Mais l'idée générale, et que je retrouve un peu chez vous, monsieur Redeker, c'est tout de même, en effet, finalement, une forme de détestation de nous-mêmes, une forme de détestation de l'Occident, de l'industrialisation du monde, de la division du travail, en effet d'une forme de rationalisation. Mais la capacité de l'homme à explorer le possible, entre autres par son arborescence technologique, est fondamentalement humaine. Ça ne le déshumanise pas du tout, à mon avis. Ce qu'il déshumanise, c'est de se mettre dans une attitude de soumission, comme il a tendance à le faire. Je crois que c'est la grandeur de l'homme d'essayer de s'émanciper de cette attitude de soumission. Et je pense que la précaution idéologique, pas la précaution raisonnable que j'approuve, la précaution idéologique nous conduit une fois de plus dans cette attitude de soumission, et il faut qu'il y ait des penseurs pour s'élever contre ça.
Voilà. Oui, mais vous dites toujours attitude idéologique, en même temps vous ne répondez pas aux exemples que je vous cite. Le clonage, vous dites, il y a des comités d'éthique, la possibilité d'une fabrication d'un certain nombre de facultés ou de capacités humaines, ce n'est pas, si vous voulez, un délire de science-fiction.
Non, pas
du tout. Ce sont des possibilités, ce sont des éventualités prometteuses aux yeux de certains, mais si on se place du point de vue de la liberté humaine, ouais, extraordinairement menaçante.
Donc ça veut dire que vous êtes gêné par les travaux sur la myopathie.
Mais non, vous voyez bien que
écoutez, ça n'a rien à voir avec la myopathie. Tirez toute la sève de votre proposition. Tirez toute la sève de votre proposition. Où est-ce qu'on fixe la norme de ce qui est acceptable ou pas? Par la raison, monsieur Finkielkraut. Donc il ne faut pas avoir un rapport inconditionnel à cette interdiction, c'est tout ce que je vous dis.
Je ne veux pas avoir un rapport inconditionnel, je m'inquiète.
Mais à juste titre, moi aussi.
De certaines possibilités qui vont réduire le champ de la liberté des hommes.
Je m'inquiète aussi, mais je m'inquiète de votre inquiétude.
Voilà. Alors, puis-je répondre à l'heure
et
à l'autre?
Bien sûr.
Premier point, ce n'est pas juste, ce n'est pas exact de m'accuser d'anthropophobie. Voilà. Et phobie, c'est peur, méfiance. C'est au contraire l'homme et l'humain que je cherche à défendre. Mais également, si vous lisez le livre, là, c'est pas du tout un plaidoyer pour l'irrationnel, loin de là. C'est pas du tout d'irrationalisme, d'anthropophobie. Mais le deuxième point, c'est cette histoire de clonage, de méfiance du clonage, de méfiance devant les manipulations génétiques. Finalement, que veut-on préserver à travers cette méfiance? Je crois que l'on veut préserver le hasard, l'aléa.
D'une certaine manière, le risque.
Voilà, donc oui, également. Parce que le clonage, c'est le triomphe absolu de la nécessité. Voilà. C'est la nécessité implacable. C'est ça, le clonage. Bon. Mais la disparition du hasard indique également la disparition de la date de la mort. Il y a l'immortalité à l'horizon du clonage. Et l'immortalité, vous savez ce que ça signifie. Ça signifie qu'il n'y a plus de jeunesse. Il n'y a plus de jeunesse. L'évolution aurait inventé la reproduction, donc la mort, pour comme ça la régénération tout le temps, le remplacement des générations. Si vous entrez dans le fantasme immortaliste qui est à l'horizon des techniques de biologie médicale, vous supprimez la mort, et je suis persuadé que si vous supprimez la mort, ce n'est pas seulement la liberté que vous supprimez. Le lien entre la liberté et la mort était bien, c'est l'humanité elle-même.
Monsieur Redeker, ne vous constituez pas non plus des épouvantails. Il y a la portion des penseurs qui abondent, par exemple, dans le sens, dans le désir du clonage, etc. Ceux qu'on appelle, par exemple, les transhumanistes sont extrêmement minoritaires. Je ne fais pas partie d'eux. Il ne s'agit pas de ça. Mais, par exemple, en effet, je me réjouis de la possibilité d'une thérapie génique qui pourrait nous dispenser de développer massivement certains cancers dans certains cas. Et là, si ce n'est pas votre cas, il faut le dire très clairement. Je veux dire, je ne sais pas exactement où vous vous situez, c'est-à-dire jusqu'où vous mettez cet interdit. Et ensuite, je fais confiance, mon Dieu, à la sagesse des hommes, même si elle n'est pas toujours avérée, pour évaluer au cas par cas et non pas justement, c'est ça la différence, c'est que je pense que la raison évalue au cas par cas quand l'idéologie évalue en, ensemble. Et ce que je reproche, c'est cette impression d'ensemble que vous me donnez là par vos différentes interventions. Donc à la limite, précisez, vous, moi j'ai précisé les normes où je m'arrêterai d'une certaine façon, mais je n'ai pas bien compris les vôtres.
Alors, une chose est intéressante, comme Gérald Brunner, c'est encore une fois cette notion de peur. Je pense au livre de Michel Onfray, Les féeries anatomiques, où il préconise, dit-il, une heuristique de l'audace, et il écrit ce livre à la gloire de tout ce qui fait peur. Le clonage, la manipulation du génome, la transgenèse, l'optimisation technique de l'enfant à naître, la fabrication d'un corps transformé par la volonté prométhéenne des biologistes, des généticiens, des médecins. Mais le livre s'ouvre sur un cri d'épouvante, ce cri qu'il a poussé quand il a appris que sa femme, sa compagne, était atteinte d'un cancer. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est aussi une peur, et d'ailleurs, elle a quelque chose d'assez extraordinaire, qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle le progrès biomédical, et qui pousse notre modernité à rectifier le corps humain en le rehaussant de prothèses et en le branchant sur des ordinateurs. Il s'agit du rêve de la santé parfaite, du désir de sécurité absolue et d'une chair à ce point remodelée qu'elle ne soit plus l'encombrant fardeau où mûrissent la fragilité et la mort. Il y a une sorte de ressentiment contre le donné qui est en quelque sorte coupable du péché originel de n'être pas un mécano dans un artefact indéfiniment réparable. Et c'est bien la raison pour laquelle, car cette peur nous la partageons tous, personne n'a envie de mourir, c'est bien la raison pour laquelle il sera très difficile de fixer des limites demain. Cette nécessité semble s'imposer, mais la volonté ne suivra pas du fait de cette peur toujours agissante.
Là, je suis d'accord avec vous. Je pensais une remarque profonde, en effet, parce qu'il y a probablement une tendance anthropologique qui pourrait rendre irrésistible toute audace dans ce domaine et qu'il faut bien encadrer, nous sommes bien d'accord. Mais d'un autre côté, faites bien attention aussi de ne pas laisser votre pensée contaminée par la fiction. La fiction contamine beaucoup, en fait, notre façon de voir. On voit, par exemple, une inquiétude qui traverse beaucoup les réseaux sociaux en ce moment, c'est la possibilité que la machine pourrait prendre conscience et se rebeller contre l'homme, qu'on a vu mille fois dans les livres de science-fiction et dans les films, bien entendu. Bon, cette possibilité, je la crois évidemment totalement métaphysique et pas sérieuse, mais elle est prise au sérieux par un certain nombre de nos contemporains, qui pourraient bientôt réclamer des normes pour encadrer la technologie informatique ou que sais-je. Donc il faut faire très attention à cette imagination galopante, si vous voulez, parce que c'est d'ailleurs là un des graves problèmes de la pensée de Jonas, c'est que l'imagination du pire, l'homme en a toujours suffisamment. Songez à ce qui a failli se passer pour le LHC, vous savez, le grand collisionneur de Hadron, grâce auquel on a découvert le boson de Higgs, grâce auquel on va découvrir peut-être des choses merveilleuses, mais ça justement c'est imprédictible, pour reprendre la phraséologie de Jonas. C'est imprédictible, mais il y a deux personnes qui ont porté plainte contre le LHC en disant qu'il y avait une probabilité de chance, il y a même des articles que je cite dans mon livre, publiés dans des revues de physique, même si c'est sur un ton un peu ironique, pour dire que peut-être que ça va créer un trou noir qui va absorber l'univers. Là, on est dans l'apocalypse absolue. Jonas, dans ce cas de figure, nous dit quoi ? Nous dit, même si la probabilité de chance est infinitésimale, mais que le risque est absolu, nous devons nous abstenir. Et vous voyez bien toute l'absurdité de cette proposition, parce que ça nous aurait conduit tout simplement à arrêter, dans le fond, la physique fondamentale et ne pas découvrir le boson de Higgs.
Voilà, je n'ai pas les mêmes méfiances que vous, même si j'en partage certaines. Par exemple, je n'ai pas la méfiance que vous semblez avoir pour la notion de fiction. Lorsque vous dites « faisons attention aux fictions », beaucoup de fictions circulent sur Internet, etc. Donc, soyons raisonnables, écartons les fictions.
Ah, je n'ai pas dit ça. Non, vive la fiction par ailleurs, mais ne laissons pas notre pensée contaminée par des récits.
Non, ce que je veux dire, c'est que les concepts eux-mêmes sont philosophiquement des fictions. Des fabrications d'un mixte d'imagination et de raison. Donc on ne peut pas dire ne laissons pas la raison, la pensée, être contaminée par la fiction. Voilà. C'est la pensée elle-même travaille avec des fictions qu'elle fabrique, et ces fictions, ce sont les concepts. De même, vous avez manifesté une grande méfiance. Alors, il s'agissait presque de tourner en ridicule le mot de métaphysique. Bon, je crois au contraire pour ma part, que la métaphysique est une très grande et très belle chose, essentielle au développement, alors je ne vais pas employer le mot de progrès, mais essentielle au déploiement de la raison humaine dans l'histoire. Voilà. Oui, vous avez dit, ce n'est pas, c'est fictif, imaginatif, métaphysique. Voilà. Et je ne suis pas d'accord pour employer métaphysique.
Mais ça, j'ai compris. Robert Heidegger, c'est intéressant ce que vous dites sur ce terme de fiction. Les concepts sont des fictions. Et Lyotard, que vous citez, a utilisé justement pour la modernité le terme de grand récit. Vous dites vous-même, le progrès a été le dernier des grands récits. Et vous ajoutez que la biopolitique sous laquelle nous vivons, et dont j'ai donné quelques exemples, eh bien, elle ne raconte plus rien. Elle est cette biopolitique post-narrative. Alors, qu'entendez-vous par là? Est-ce que cet espoir, si vous voulez, sinon d'échapper à la mort, du moins de la retarder toujours davantage, qui est très puissant aujourd'hui dans le monde occidental, n'a pas un certain attrait narratif?
Non, je vais... Pour une fois, je vais commencer par un exemple, puisqu'il m'a frappé avant de venir ici. J'étais à l'hôtel, j'ai regardé une chaîne d'information en continu, et il y a eu un accident ce matin terrible avec un car. Alors tout de suite, le président de la République intervient, le ministre de l'Intérieur intervient, il y a un accident avec des morts, voilà qui est politiquement central. Il y a deux semaines, il y a eu une tempête avec des inondations et beaucoup, beaucoup de morts dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, le politique est comme s'il s'agissait de la chose la plus importante. C'est cela que j'appelle le biopouvoir et pas tout à fait au sens de Michel Foucault. C'est, oui. Même ma conception est très éloignée de celle de Foucault. C'est-à-dire, c'est la gestion
de la vie.
Oui, d'une manière à la pantomime, c'est de la parodie, voilà. La gestion politique, entre guillemets, parce que ce n'est plus politique, c'est au-delà et parodique du politique, de l'existence humaine dans sa forme privée et corporelle. Voilà. Et je crois que vous parliez de ce qui menaçait la démocratie tout à l'heure, vous citiez Jonas et quelques autres, mais je crois qu'en même temps, nous avons eu une mutation de ce que l'on appelle encore démocratie, qui se vide elle-même de son contenu, qui se dédémocratise, et cette mutation, c'est ce dont je viens de parler. Il y a un accident terrible et tous les pouvoirs publics, c'est la chose la plus importante.
Et non, oui. Alors, une autre chose que je voudrais vous demander, Gérald Brunner, vous parlez à la fin de votre livre, vous écrivez que nous sommes humains plutôt que terriens. Alors voilà, peut-être une modalité du grand récit à laquelle je ne m'attendais pas, parce que il me semble, je pense avec Hannah Arendt, que la Terre est la quintessence de la condition humaine. La nature terrestre, pour autant que l'on sache, pourrait bien être le seul lieu de l'univers à procurer aux hommes un habitat où ils puissent se mouvoir et respirer sans effort et sans artifice. Mais l'homme futur que produiraient les savants, en quelque sorte... paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée, cadeau venu de nulle part, laïquement parlant, et qu'il veut, pour ainsi dire, échanger contre un ouvrage de ses propres mains. C'est aussi une des modalités de ce biopouvoir. Faire de la vie un artifice humain, seulement humain, donc voilà, on se débarrasse de la condition terrestre, d'où effectivement l'obsession par la politique de tout ce qui pourrait porter atteinte à cet idéal et le rejet des accidents eux-mêmes.
Oui, d'abord, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec l'idée, mais ça va me permettre de répondre à votre question, qu'il n'y a plus de grand récit. Je crois qu'au contraire, on est témoin de l'émergence d'un grand récit. ce grand récit, je le décris dans l'introduction de mon livre. Je n'ai pas le temps là de développer, mais il s'agit grosso modo de cette posture anthropophobique. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le package idéologique de ce grand récit, qui grosso modo interroge la moindre action de l'homme en craignant donc ses conséquences, dans le package, il y a un lien qu'on fait presque ontologique entre l'homme et la Terre, que même certains appellent Gaïa. Je prétends en effet que ce qui caractérise l'homme, c'est pas sa filiation terrestre, même si en effet l'humanité est née sur Terre, c'est la caractéristique de son cerveau, dont je rappelle qu'elle est extraordinaire, puisque c'est probablement l'objet le plus complexe de l'univers, 1 000 000 000 000 000 000 de connexions, et c'est pour ça que je pense que sa caractéristique, c'est la possibilité d'explorer le possible. Et il ne faut surtout pas empêcher l'homme d'explorer le possible, et je pense que c'est ce que vise entre autres cette idéologie anthropophobique. Et pour vous contredire sur un point, les développements de la technologie nous aident à savoir qu'aujourd'hui, à coup sûr, il existe non pas une Terre, mais probablement des millions et des millions d'autres planètes qui potentiellement, on pourra sans doute pas y aller, mais potentiellement pourraient nous accueillir, ce qui limite notre perception très anthropocentrée de l'univers.
Bien, eh bien écoutez, je ne sais pas quoi dire, Dieu vous entende. En tout cas, merci beaucoup Gérald Brunner, merci Robert Redeker. Je voudrais rappeler les titres de vos livres. Gérald Brunner, La planète des hommes, réenchanter le risque, au PUF. Robert Redeker, Le progrès, point final, aux éditions Ovadia. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site republiquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1 000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'Islam et l'Occident. Mes invités seront l'imam Tarek Oubrou et Daniel Siboni. J'aurai sans doute l'occasion de citer les propos exacts tenus par Smaïn Lahacher lors du documentaire « Prof en territoire perdu de la République » de Georges Benayoun, diffusé le 22 octobre sur France 3. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Valérie Lavalard, dans un instant Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, La vieillesse telle qu'on la voit, hier et aujourd'hui, avec Georges Vigarello.